Bonjour et bienvenue sur Radio Navo, l'émission dans laquelle on parle de sujets de société avec humour. Je suis Elouan et avec moi, Amaury. Bonjour Amaury.
Salut Elouan, ça va?
Ça va et toi?
Tranquillement.
Super. Alors aujourd'hui, on parle de la méritocratie et des influences sur notre système actuel.
Et on va commencer tout de suite avec une fervente défenseur des droits des travailleurs. Sarah Salman, vous la connaissez, mesdames et messieurs.
Mais en arrêt maladie. Est-ce que vous comprenez ce phénomène, notamment chez les jeunes?
Moi, je savais déjà qu'on était dans une France d'assistés. Maintenant, je vois que nous sommes dans une France de fragiles. Donc, je ne suis pas surprise par rapport à ça.
Bon, ok.
Hey, vous inquiétez pas. Vous la connaissez, Sarah Salman, ça arrive après.
Et ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple, profession libérale, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'être malade. Parce que même si je suis malade, j'ai rien qui tombe, je ne suis pas payée. Donc il ne faut surtout pas que je sois malade. Donc même si. Il se trouve que je ne suis jamais malade.
Donc, en fait, on est malade parce qu'on
est. Non, on est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paye qui tombe. Voilà pourquoi on est malade.
Ah ouais, genre Martine, 39 ans, fait une dépression. Elle a fait exprès, cette grosse feignasse.
Ouais, vraiment. Franchement, Martine, elle abuse un peu. Bon, en France, près d'un adulte sur 6, environ du coup 16%, a vécu un épisode dépressif caractérisé au cours du coup de ces 12 derniers mois, par exemple en 2024. Plus de la moitié des personnes concernées n'ont pas consulté de professionnels de santé, et les jeunes et les adultes de 18 à 29 ans, les femmes et ce grand groupe sont particulièrement touchés par ce genre de prévalence.
Chaque jour, il y a 1 million de personnes en arrêt maladie en France. L'économiste Frédéric Bizard constate une très forte hausse qui, selon lui, ne peut pas s'expliquer par des abus. Il s'expliquerait plutôt par plusieurs facteurs. Le vieillissement de la population active, l'augmentation des burn-out et troubles psychologiques, la dégradation des conditions de travail dans certains secteurs, le recul de l'accès aux soins, mais aussi l'intensification du travail et la précarisation de nombreux emplois.
Parce qu'un rhume, c'est quoi? C'est un rhume, une angine, et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses?
Une étude, si on reprend Sarah Salman, dit que plus on dit de synonymes à la suite, plus on est convaincant. Enfin, c'est ce qu'elle essaie de prouver, je pense.
Comment vous expliquez que moi, profession libérale, mes confrères, profession libérale, ne sont officiellement jamais malades?
La pénibilité au travail, c'est pas juste simplement être fatigué. C'est quand le travail use physiquement ou mentalement sur le long terme. Stress, pression, gestes répétitifs, horaires difficiles ou manque de reconnaissance. Simone Veil a travaillé en usine dans les années 30 et explique dans La condition ouvrière que certains emplois peuvent déshumaniser les travailleurs. Pour elle, le problème vient d'un rythme de travail qui écrase la pensée et la dignité humaine.
Les arrêts liés au stress, au burn-out ou aux troubles psychologiques représentent environ 36% des arrêts longs. Elle montre ainsi que beaucoup de souffrances au travail ne viennent pas seulement des individus, mais aussi des conditions de travail elles-mêmes.
Une idée encore très actuelle quand on parle de burn-out ou d'augmentation des arrêts maladie.
Il y en a qui, c'est pas facile, mais ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur travail, parce que c'est pas des faibles. Là, c'est un truc de. C'est quoi, c'est fragile, là? C'est quoi, c'est faible?
Martine, elle devrait avoir honte, en effet.
Ah ouais, franchement, Martine, t'as pas honte?
Bon, Sarah, c'est pas le vampire qu'on décrit depuis le début de nos extraits. Dans Au boulot, Sarah Salman accepte le défi lancé par François Ruffin, vivre pendant une semaine le quotidien de travailleurs précaires, après avoir multiplié les critiques sur les arrêts maladie ou les salariés au SMIC dans les médias. Elle découvre alors des métiers physiquement et mentalement éprouvants, longues journées, douleurs, stress, fatigue et difficultés à vivre avec des petits salaires.
Au contact des travailleuses, elle réalise aussi la réalité humaine derrière les statistiques et les débats politiques. Le documentaire fonctionne comme une confrontation entre deux visions du monde social. Cette immersion agit comme une forme de rédemption. Car Sarah Salman semble peu à peu reconnaître qu'elle était déconnectée de certaines réalités, du travail et de la pénibilité vécue par beaucoup de salariés. On peut quand même questionner l'aspect du film qui fait un peu, on va dire, 24 heures avec les pauvres.
En bref, elle a passé une semaine. Maintenant, elle joue les Batman à défendre la femme et l'orphelin sur les plateaux de CNews.
Vous n'avez pas lutté, puisque vous avez
en même temps reproché à Laurent Wauquiez d'avoir parlé du cancer d'Assistana.
Mais Laurent Wauquiez, tout ça, c'est sur l'année dernière. Je vous parle de 30 ans.
Mais généralement, les gens n'ont pas envie de vivre des allocs.
Sarah Salman.
Parce que là, vous dites ça comme si ça leur faisait plaisir. Moi, je pensais comme vous, je sais que je vais encore en reparler, mais avant le film avec François, je pensais comme vous. Et maintenant, j'ai compris que les gens, ça ne leur fait pas plaisir de vivre des allocs.
Bravo, heureusement qu'elle est là. À bas le capitalisme. Bientôt, Sarah Salman en chef du syndicat de la CNT.
L'idée que la méritocratie existe, elle signifie que chacun réussirait uniquement grâce à son travail et ses efforts. Mais de nombreux sociologues, comme Pierre Bourdieu, montrent que l'argent ou encore la confiance transmise par la famille influencent fortement les chances de réussite. Deux personnes qui travaillent autant n'auront donc pas forcément les mêmes opportunités.
Sarah Sadman croit beaucoup à cette idée de mérite individuel, notamment parce qu'elle vient d'un milieu favorisé et très diplômé. Fille d'un médecin et d'une pharmacienne, elle a grandi dans un environnement où la réussite scolaire et professionnelle est valorisée et rendue plus accessible grâce au capital culturel et social transmis par sa famille.
Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas travaillé, mais plutôt que son parcours s'est construit avec des avantages que d'autres n'ont pas forcément. Stabilité financière, codes sociaux, le réseau, les études longues, la sécurité matérielle. C'est aussi justement ce que critique l'idée anti-méritocratique. On ne part pas tous de la même ligne de départ.
Dominique Méda présente une idée présente dans plusieurs interviews et ouvrages. On continue à faire comme si chacun était responsable de sa situation. Bref, passons maintenant à un extrait bien plus croustillant, un gros morceau. Hélène Mercier-Arnaud, souvent présentée dans les médias comme la première femme de France en raison de sa relation avec Bernard Arnault,
et oui,
est récemment passée sur RTL pour faire la promotion de son nouvel album. Et oui, on l'oublie parfois, mais elle est avant tout musicienne. Mmh. Elle joue du piano depuis l'âge de 6 ans. Elle a construit un vrai parcours artistique toute seule, sans l'aide financière de ses parents, bien sûr.
On précise quand même, hein. C'est une fille d'un avocat et d'une agente immobilière. Bon, lançons le premier extrait.
France, on veut faire la peau des riches avec ce fameux ruissellement ou pas du tout ?
C'est exagéré, il paraît-il, oui, effectivement, beaucoup d'exagération au niveau des taxes en France. Je pense que ça enlève de la liberté et du respect à l'être humain que d'être trop assisté aussi. Moi, je ne suis pas pour ça non plus.
En tout cas, sympa l'album. Comment on est venu à parler de taxes alors qu'on est censé parler de son album ?
Bon, déjà, Hélène, les taxes et la citanas sont deux combats différents car ils ne parlent pas de la même chose. Les taxes, c'est l'argent que l'État prélève et la citanas, c'est la manière dont cet argent est redistribué via les aides. On peut donc être contre trop d'impôts sans être contre les aides sociales ou par exemple critiquer certaines aides tout en acceptant les taxes. Au fond, le débat porte surtout sur le rôle de l'État. Doit-il surtout laisser les individus se débrouiller seuls ou corriger les inégalités avec la redistribution ?
C'est surtout où va l'argent, quoi ?
Non, comment est-il dépensé ? Dans les routes, oui, dans l'éducation, vous, la musicienne que vous êtes, dans les conservatoires publics,
oui,
l'argent,
tout
il va là, Hélène ?
Non, mais le problème, il est là aussi. Il n'y a jamais moyen de vraiment vérifier où va l'argent, les dépenses, où elles vont.
Hélène, on va devoir tourner en maternelle là.
Carrément.
Bon, alors, c'est chiffré, on sait où va l'argent. Donc voici la répartition des dépenses publiques. 55% pour la protection sociale, retraite, santé, chômage, aide sociale. 20% pour les services publics généraux, administration, justice, sécurité. 10% pour l'éducation. 5 à 7% pour les infrastructures et l'environnement. 3 à 4% pour la défense et environ 3% pour les intérêts de la dette. Voilà.
Vous me dites que l'argent ne fait pas le bonheur. On sent la femme sincère que vous êtes et qui vit dans un milieu confortable et on ne peut pas vous le reprocher. Comment vous vivez ce décalage-là ? Cette espèce quand même de société qui ne va pas bien ?
Je ne vis pas avec de la culpabilité tous les jours à partir du moment où je ne pourrais rien faire. C'est la société, c'est le monde dans lequel on vit.
Oh non, la culpabilité. Bon, on s'en doute, Hélène. Hein. Cette société, c'est vraiment une sale conne. On sait bien que tu vas rejoindre en CNT, voilà, Sarah, la co-directrice. Ça va être sympa tout ça.
Quand j'ai été en Afrique, quand j'ai visité la RDC, c'était quand même beaucoup plus marquant que ce que je peux voir en France quand même.
Vous n'avez pas honte, les SDF français ?
Oh là là là.
On vit quand même beaucoup mieux que dans le pays africain.
Ah oui, enfin, c'est vrai que l'Afrique, c'est quand même un bon gros pays, on le sait tous.
Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. Bon, les SDF, j'y pense pas tous les jours. Hein.
Ah bon ? Choc-barre. Genre, t'y penses pas tous les jours, Hélène ?
Les premières fois que j'ai vu, on appelait ça des clochards à l'époque. Les premières fois que j'ai vu des clochards, c'était quand je suis arrivée à Paris, parce qu'il n'y en avait pas à Montréal. Alors peut-être qu'ils faisaient, c'était à l'époque, il faisait trop froid. J'en ai beaucoup vu à New York quand j'habitais là-bas, que j'étudiais à Juilliard.
Bon, bonne théorie. On a souvent l'impression qu'il y a moins de SDF à Montréal qu'à Paris, mais ce n'est pas forcément parce qu'il y en a beaucoup moins. C'est surtout lié à plusieurs différences urbaines, climatiques et politiques. D'abord, le climat joue énormément. Les hivers québécois sont extrêmement froids, ce qui pousse davantage de personnes sans abri vers les refuges, les stations souterraines, les centres communautaires ou les hébergements temporaires.
À Paris, le climat, il est plus doux. Et du coup, malheureusement, il permet de survivre plus facilement dehors toute l'année. C'est ce qui rend du coup les fameux SDF plus visibles dans l'espace public.
Ça paraît visible que c'est aussi un choix de vie, oui.
C'est des gens qui
sont... Un choix de vie, il y a eu des gens aussi qui se sont retrouvés, qui avaient des choses, qui ont décidé de lâcher la société, quoi. C'est un retrait du monde.
Oh là là. Ils sont allés faire une retraite spirituelle dans la rue.
Génial, Hélène. Dire que les SDF choisissent leur vie, c'est un peu dur, comme une personne qui se noie, bah, elle a choisi de pas respirer. On le sait tous, hein.
Avec tous ces jeunes qui vivent dans la rue, avec rien, et qu'on endort avec la bière...
Mais vous dites
je pense
pas que
heureusement, chaque être humain réussit à trouver la lumière en lui et un peu de bonheur.
Pas toujours.
Bon, ben, la réponse de la femme la plus riche de France face à toutes les personnes dans le besoin, c'est trouver la lumière.
Ce sujet, je pense pas qu'il faille regarder ça de manière superficielle.
Merci d'être venu sur RTL ce matin. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous?
Et les SDF aussi, à Vienne, par exemple, ils sifflent des mélodies de Schubert, vous voyez, donc...
Bah Hélène, c'est trop cool, enfin, t'es venue nous parler de notre album, enfin, ton album, Hélène. Donc maintenant, bah, pourquoi pas faire un feat avec les SDF? Ça pourrait être trop cool, non?
En bref, le discours très centré sur la méritocratie venant des ultra-riches, c'est un problème, et c'est ce qui donne souvent l'impression... que la réussite serait uniquement le résultat du travail individuel. Or, des penseurs comme Pierre Bourdieu ont montré que les classes favorisées transmettent énormément d'avantages invisibles. Les réseaux sociaux, capital culturel, sécurité financière, accès aux grandes écoles, confiance face aux institutions. La réussite n'est donc pas une compétition équitable.
Enfin, deux personnes peuvent travailler autant, sans avoir les mêmes résultats, simplement parce qu'elles ne partent pas du même endroit. Dominique Méda critique aussi cette idée moderne selon laquelle la valeur d'un individu dépendrait uniquement de sa productivité. Dans ce système, les pauvres deviennent responsables de leur pauvreté, tandis que les privilèges hérités deviennent totalement invisibles.
Même réflexion chez Simone Veil, la pénibilité réelle du travail est souvent ignorée par ceux qui ne sont pas confrontés directement. Un ouvrier, une aide-soignante ou un agent d'entretien ne vivent pas le travail comme un PDG ou un héritier.
Enfin, les chiffres montrent que la reproduction sociale reste quand même massive. Les enfants de mieux aisés accèdent beaucoup plus facilement aux études supérieures. En France, 45% des enfants de cadres deviennent eux-mêmes cadres, contre seulement du coup 9% des enfants d'ouvriers. Un enfant de cadre a jusqu'à 5 fois plus de chances d'accéder aux positions sociales plus élevées qu'un enfant ouvrier. Les grandes fortunes sont souvent liées à l'héritage. Le patrimoine familial influence fortement du coup la réussite. Le mythe méritocratique sert alors parfois à transformer des privilèges sociaux en mérites qu'on considère plus individuels. Si les riches sont riches, ce serait parce qu'ils auraient forcément mérité cette richesse.
Selon une étude récente, les plus grandes écoles françaises, les enfants d'anciens diplômés des élites ont jusqu'à 80 fois plus de chances d'intégrer ces écoles et parfois jusqu'à 300 fois plus pour certaines institutions comme l'ENA ou Psychotechnique.
Bref, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la prochaine fois pour parler de la BD de François Ruffin.
Au revoir.
À plus.
Radio.